France Inter.
Bonjour à tous. Nouvelle journée de canicule en France. Le thermomètre va encore largement dépasser les 40 degrés. Vigilance toujours rouge dans l'Aude et 4 départements du Sud-Est. Léger répit à l'autre bout du pays avant une remontée des températures ce week-end. Nous serons à Agen, Lot-et-Garonne dans un instant. La canicule qui fait tourner les clims. EDF alerte sur le risque de surcharge du réseau électrique en Corse. Et dans le massif du Mont-Blanc, la mer de glace font encore plus vite que d'habitude. À suivre encore Volodymyr Zelensky à Berlin aux côtés du chancelier allemand pour parler aux alliés européens et surtout tenter de convaincre Trump de défendre les intérêts de l'Ukraine face à Poutine. D'où vient la contamination à la listeria ? Plusieurs dizaines de références de fromages rappelées par les autorités sanitaires. Et puis le PSG en quête d'un nouveau trophée face à Tottenham ce soir en Super Coupe d'Europe.
Inter.
Un petit répit donc dans le sud-ouest, à l'exception de l'Aude, tout ce quart du pays est repassé en vigilance orange. C'est le cas du Lot-et-Garonne. Bonjour Erwan Chassin.
Bonjour Xavier, bonjour à tous.
Vous êtes à Agen et si les températures à l'ombre baissent légèrement aujourd'hui, on ne s'en rend pas vraiment compte.
Effectivement, j'ai le regret de vous annoncer que non, ce n'est pas Agen que vous allez pouvoir trouver un paradis de fraîcheur. Il fait toujours très lourd avec un ciel blanc, symptomatique d'un épisode de forte chaleur. Je suis d'ailleurs passé ce matin sur le marché couvert d'Agen vers 10h pour savoir si tout cela n'était que mon ressenti. Un boucher que j'ai interrogé a voulu que je répète ma question lorsque je lui ai demandé s'il avait, lui, senti cette baisse de température. Il m'a dit « Mais vous rigolez, à 2h ce matin, il faisait déjà 27 degrés. On continue de suer à Agen. Pourtant, il fait actuellement 33 degrés, c'est moins chaud qu'hier, ici à la même heure, au même endroit. Ce qui aide, c'est une légère couverture nuageuse qui fait que les rayons du soleil ne nous brûlent pas directement. Mais on reste en vigilance orange à la canicule et une vigilance jaune aux orages doit débuter peu avant 15h. Des orages qui peuvent être même forts selon Météo France. Ça devrait faire baisser un peu le thermomètre, mais baisse ponctuelle puisque la chaleur doit revenir en force dès vendredi avec des pics à 40 degrés.
Au total, 68 départements sont donc en vigilance orange, toujours en rouge, l'Aude, le Rhône, l'Isère, l'Ardèche et la Drôme jusqu'à 6h demain matin. Seul le Nord-Ouest est épargné. Météo France attend 42 degrés à Lyon. Aujourd'hui, hier, on a frôlé les 43 à l'ombre en Ardèche et effectivement, des orages parfois violents pourraient éclater dans l'après-midi. Prévision en fin de journal. De fortes chaleurs sur plusieurs jours, y compris la nuit. Tout cela met les organismes à rude épreuve, et notamment ceux des plus fragiles d'entre nous, comme l'explique Raphaël Roth, elle est gériatre à l'hôpital Broca à Paris.
La première des conséquences à laquelle on peut penser, c'est la déshydratation qui peut entraîner une réelle cascade de complications, entraîner une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque, des insuffisances respiratoires, mais également une décompensation cérébrale qu'on peut appeler la confusion. Ça peut entraîner des chutes. Alors évidemment, il faut qu'on soit d'autant plus vigilant par rapport à nos patients qui sont hospitalisés, mais également par rapport aux patients qui ne sont pas hospitalisés, qui est quand même la majeure partie des personnes âgées. Il faut avoir des réflexes, des automatismes, boire régulièrement. Moi, j'aime bien donner le conseil de un verre d'eau par heure à mes patients, même si on n'a pas soif. Il faut savoir que la sensation de soif chez les personnes âgées est amoindrie et d'autant plus amoindrie qu'ils sont déjà déshydratés. Il faut également manger régulièrement, manger 3 repas par jour. Si les repas sont difficiles, fractionner les repas et manger par exemple régulièrement toutes les 3-4 heures. Il faut faire attention à ces traitements habituels, d'autant plus chez les patients qui ont des traitements qu'on appelle diurétiques, qui font donc éliminer de l'eau, qui sont extrêmement dangereux en situation de canicule, d'autant plus si cette canicule dure dans le temps.
Raphaël Roth avec Victor Delande. De façon générale, pensez à vous hydrater et restez au frais aux heures les plus chaudes. La Corse va-t-elle manquer d'électricité dans les jours à venir? Beaucoup de touristes, les climats font. Il y a un risque de surcharge du réseau de l'île. En soirée, les pointes de consommation peuvent dépasser les 500 mégawatts. Or, la capacité ne dépasse pas les 440. EDF, Florence Walker, préfère donc appeler à la vigilance.
Pour l'instant, tout va bien. Qui dit signal orange dit prudence et pas encore interdiction. Avec cet appel aux consommateurs, les invitant à la modération, à une gestion raisonnée de leurs usages, comme se servir de ses appareils ménagers en heure creuse, comme ne pas recharger sa voiture électrique entre 18 et 23 heures, comme augmenter d'un degré sa climatisation, EDF Corse prévient avant de guérir. Car si la canicule se prolonge, l'île pourrait être très vite victime de délestage, voire de coupures plus longues. En cause, la hausse des températures, la surfréquentation touristique, certes, mais aussi et surtout l'état vieillissant de ses moyens de production qui, pour les deux plus gros d'entre eux, qui alimentent Ajaccio et Bastia, commencent à sérieusement souffrir de la chaleur caniculaire. Pour l'instant, EDF ne déclenche pas l'artillerie lourde et ses groupes électrogènes, mais joue serré, avec des moyens limités. En effet, pas question de compter sur la liaison Sacoï, qui relie la Corse à la Sardaigne et l'Italie en courant continu, la Sardaigne également en alerte canicule et en surfréquentation, ne pouvant donner plus. La bonne nouvelle, c'est que s'il n'y a pas d'aléas sur le parc de production, si les machines tiennent le coup, si les températures baissent et si les touristes repartent, on devrait rester en alerte orange.
Florence Walker de Ici RCFM. Le besoin de fraîcheur nous conduit souvent à l'eau, piscine, lac, mais attention aux noyades. Un enfant de 4 ans est mort dans un camping du Pilat sur mer à l'entrée du bassin d'Arcachon. Il se trouvait seul avec son frère aîné de 9 ans. Les secours n'ont pas réussi à le réanimer. Et si l'on suffoque dans les villes comme à la campagne, les montagnes souffrent aussi beaucoup en ce moment. Le glacier de la mer de glace dans le massif du Mont Blanc recule à une vitesse encore plus inquiétante que d'habitude, comme en témoigne Ludovic Ravanel. Il est géomorphologue et guide de haute montagne.
Cet été un petit peu particulier parce qu'il a déjà très mal démarré avec une canicule fin juin, début juillet. Et ça, c'est quelque chose qui est très dommageable pour la haute montagne. C'est-à-dire que quand on commence par une période très très chaude, la couverture neigeuse fond. Et la période de fonte pour les glaciers démarre très tôt. Et ça, d'ailleurs, c'est un des symptômes de la crise climatique. C'est-à-dire que non seulement on a des étés de plus en plus chauds, mais des étés également de plus en plus longs. Donc la période de fonte pour les glaciers commence très tôt et peut finir très tard, y compris jusque début novembre. Donc ça a des effets sur les quantités de glace qui fondent. Du côté du Mont-en-Vert, par exemple, au niveau de la mer de glace, on peut avoir 10, 12, 15 mètres de perte. Et sur des journées comme hier, aujourd'hui, c'est plus de 10 cm par jour qui disparaissent.
Ludovic Ravanel, invité ce matin de France Info. Le sommet du Mont Blanc est 4806 mètres d'altitude où des températures positives ont été enregistrées hier pour la deuxième fois de l'été, le 0 degré n'étant atteint qu'au-dessus des 5000 mètres. Enfin, il n'y a pas que la France qui suffoque, c'est l'Europe tout entière qui souffre de cette vague de chaleur. Au moins 6 grands feux de forêt hors de contrôle en Espagne. Ils ont déjà fait 2 morts et en Grèce, la journée s'annonce très difficile avec des vents violents qui risquent d'attiser la vingtaine d'incendies en cours. 13h07.
France Inter, le journal de 13h. Xavier Demagny.
Essayez de peser autant que possible à 3 jours du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Rencontre d'ici 1 heure d'abord entre les Européens et Volodymyr Zelensky pour accorder les violons. Rejoint ensuite par le président américain et son vice-président J.D. Vance en visioconférence. Bonjour David Philippot.
Bonjour à tous.
Vous êtes à Berlin où le président ukrainien a carrément fait le déplacement pour être aux côtés du chancelier allemand Friedrich Merz, qui espère jouer de ses bonnes relations jusqu'ici avec Trump pour le convaincre de défendre les intérêts ukrainiens.
Effectivement, le chancelier allemand, qui se targue de bonnes relations avec l'administration Trump, a interrompu ses vacances au bord d'un lac bavarois afin de convoquer cette réunion en urgence et pour un message d'une grande clarté adressé à Washington. L'Europe fait bloc derrière l'Ukraine. Friedrich Merz veut, avec l'aide des alliés, attirer Donald Trump dans leur camp et le pousser à brandir le bâton de nouvelles sanctions contre la Russie, contre ses banques dans une économie fragilisée par la guerre, si ces bombardements ne cessent pas. Le cessez-le-feu, c'est la priorité avant toute négociation pour une paix, comme l'a dit le Britannique Starmer ce matin, que les Européens veulent juste et durable, et pas comme le craint Zelensky, que l'échange de territoire ne débouche dans le futur sur une nouvelle offensive de l'armée russe. Pour ne pas laisser Trump tomber dans le piège tendu par Vladimir Poutine, la tactique est connue d'avance, flatter son ego, le couvrir d'éloges pour éviter le scénario du pire, que le président américain accepte en Alaska le démantèlement de l'armée ukrainienne, qu'il refuse toute contrepartie à Kiev et la fin des garanties de sécurité ou des livraisons d'armes.
David Philippot, France Inter à Berlin, ce midi, Moscou juge ses consultations insignifiantes. Volodymyr Zelensky appelait lui ce matin à contrer toute tromperie russe dont l'armée a enregistré sa plus importante avancée en Ukraine depuis 1 an ces derniers jours. L'armée israélienne approuve le plan de Benjamin Netanyahou pour Gaza. Le premier ministre israélien a présenté la semaine dernière ce plan qui doit permettre, selon lui, de libérer tous les otages détenus dans l'enclave. Aucun calendrier pour l'instant, mais le Hamas dénonce de son côté des incursions agressives des forces israéliennes aujourd'hui dans la ville de Gaza. Réduire la pollution plastique. Le défi est énorme et la perspective d'un traité international s'éloigne à 48 heures de la fin des négociations de l'ONU à Genève. La ministre française Agnès Pannier-Runacher déplore le blocage et l'obstruction d'une poignée de pays producteurs de pétrole. Elle envisage de proposer un texte resserré qui pourrait être soutenu par une majorité de pays. Deux morts probablement liées à cette contamination à la listeria en France. 21 cas identifiés au total par Santé publique France, possiblement liés à la consommation de fromage au lait pasteurisé fabriqué dans la Creuse et vendu en grande surface. La liste des produits rappelés par les autorités sanitaires est en ligne sur le site Rappel Conso. Ils ne doivent surtout pas être consommés. La contamination pourrait venir du lait, mais Valérie Menu, l'histoire a commencé il y a déjà quelques semaines et l'origine de cette contamination n'est toujours pas précisément identifiée.
La fromagerie Chavegrand avait en fait déjà effectué des rappels de sa production en juin dernier, comme l'explique le responsable communication de l'entreprise, Guillaume Albert.
On a eu un signalement sur une référence de fromage qui est distribuée par l'enseigne Carrefour, qui nous a averti qu'il y avait une suspicion de contamination à la listeria. Donc on a immédiatement pris la décision de retirer tous les produits concernés. On a même élargi à des produits qui avaient été fabriqués sur les mêmes lignes ou à aux mêmes dates.
Des retraits alors que la fromagerie fermait d'anciennes lignes de production et en mettait en route le 8 juin une nouvelle, toute neuve, dans un nouveau bâtiment. Une ligne entièrement sûre puisqu'elle a subi un vide sanitaire, explique la fromagerie. Il n'empêche que...
On a reçu le 21 juillet une alerte de la part des autorités de santé qui nous ont indiqué qu'il y avait un certain nombre de personnes malades qui avaient consommé pour certains nos fromages. C'était des fromages qui avaient été fabriqués avant la fermeture de notre ancienne ligne de production. Donc, on a pris la décision, vraiment par mesure de précaution, de rappeler l'ensemble de toutes nos fabrications avant le 1er juin.
Ce sont donc 105 références de fromage Chavegrand, au lait de vache et au lait de chèvre qui sont ainsi désormais rappelées.
Valérie Menu, ici Nord. Redémarrage d'un réacteur à la centrale de Gravelines, la centrale nucléaire mise à l'arrêt depuis lundi matin à cause de la présence massive de méduses à l'entrée des stations de pompage de l'eau de refroidissement. Les trois autres réacteurs arrêtés le sont toujours. En Bretagne, une femme est morte ce week-end, tuée à l'arme blanche par son ex-conjoint, lui-même abattu par un gendarme lors de son interpellation. Il menaçait le militaire avec une machette. Sarah Guibaudot, la victime, on l'a appris hier, avait porté plainte à deux reprises contre son agresseur.
Oui, cette femme de 36 ans a été tuée en bas de chez elle à Saint-Jouan-des-Guérets devant ses deux filles adolescentes par l'homme dont elle s'était séparée au début de l'été. Depuis, elle recevait de nombreux appels et des visites non désirées de son ex au motif de récupérer des affaires ou de lui offrir des fleurs. Un harcèlement pour lequel elle porte plainte le 18 juillet au commissariat de Saint-Malo. Le 2 août, nouvelle plainte, elle accuse son ex d'avoir brisé la vitre et crevé un pneu de sa voiture. Cette fois, on ne sait pas pourquoi, elle s'adresse à la gendarmerie de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine. Le procureur de Saint-Malo prend soin de préciser que lors de sa première plainte, cette femme avait affirmé ne pas subir de violence ou de menace. Une voisine a pourtant confié à nos collègues d'ici, ex-France Bleu, qu'elle vivait dans la peur et se sentait de plus en plus menacée. Ce crime est désormais qualifié d'assassinat. Quant à l'auteur, l'autopsie a confirmé que les gendarmes avaient d'abord fait usage de leur taser sans effet avant d'ouvrir le feu.
Sarah Guibaudot, service police-justice de France Inter. Dans les tableaux Excel d'Éric Ciotti, enquête ouverte à Nice après le signalement d'un lanceur d'alerte anonyme au procureur de la République pour fichage illégal d'administrer par un élu. Des listes de noms, d'emails, numéros de téléphone avec certains détails, comme la religion ou la profession. Des perquisitions ont été menées au conseil départemental que le député des Alpes-Maritimes, XLR, désormais patron du petit parti UDR allié au RN, a dirigé entre 2008 et 2017. Bonjour Timon Rostur.
Bonjour à tous.
La justice a notamment saisi du matériel informatique.
Oui, hier, les enquêteurs de la police judiciaire cherchent des fichiers dans lesquels sont enregistrées ces données à caractère personnel, sensibles et conservées sans le le consentement des personnes fichées. Une enquête préliminaire a été ouverte en mai dernier par le parquet de Nice. Selon nos confrères de Libération qui ont révélé l'affaire, on trouve 800 profils dans ces fichiers, avec nom, parfois métier, mais aussi une case religion, où est parfois spécifié confession juive, confession chrétienne, protestant. Dans l'entourage d'Éric Ciotti, on assure que ces fiches sont protocolaires, qu'elles servent à identifier des interlocuteurs sur des questions spécifiques, comme des responsables d'associations ou de cultes, en aucun cas un fichage massif d'électeurs. Dans le contexte de la future bataille pour la mairie de Nice et de la rivalité entre Éric Ciotti et Christian Estrosi, certains veulent y voir une peau de banane lâchée par un ancien ciotiste passé chez son adversaire.
Timur Öztürk, service politique de France Inter. Ils n'ont eu qu'une semaine de préparation à peine et la reprise est déjà là. Le PSG lance sa saison ce soir à Udine en Italie. Match de Super Coupe d'Europe contre les Anglais de Tottenham. Il oppose le vainqueur de la Ligue des Champions à celui de la Ligue Europa et peut-être avec à la clé un nouveau trophée pour Paris, Léonard Tyrell.
Aux abords du Parc des Princes, les supporters se font prendre en photo devant la fresque champion d'Europe comme Hugo et ses amis. Et quand on évoque le match de ce soir avec lui...
C'est un gros match en jeu. Les matchs de préparation, c'est des matchs amicaux. C'est pas une Super Coupe d'Europe. D'autant plus quand t'as la possibilité de marquer l'histoire de ton club, de marquer l'histoire du football français parce que ça n'a jamais été remporté. C'est pas du tout un match amical. C'est une finale à remporter.
Quelques mètres plus loin, Gaëtan, supporter depuis plus de 20 ans, a vous craindre cette rencontre.
Oui, je pense que ça va être dur parce qu'il n'y a pas eu de match de prépa ni rien. Ça va être compliqué, surtout Tottenham. Ils ont une grosse préparation. Mais bon, ils sont capables de tout, donc on espère qu'ils vont gagner.
Capable d'être donc à nouveau sur le toit de l'Europe, c'est ce qu'espère et attend Lionel.
Sans exception, l'année prochaine c'est tout. Faut tout rafler. Une fois qu'on est parti, j'ai envie de dire, faut continuer. C'est le plus dur, c'est de rester en haut.
Lucas, lui, jeune fan de 12 ans, veut aussi prolonger le rêve.
Oui, je pense qu'on peut faire le back-to-back.
Vous prenez un deuxième sacre consécutif, jamais réalisé depuis le Real Madrid en 2018.
Et près de 6000 supporters parisiens sont attendus ce soir en Italie. Bonjour Olivier Proust.
Bonjour.
Le temps change aujourd'hui.
Oui, alors quelques éclaircies vont finir par revenir sur la pointe bretonne, mais un ciel nuageux à très nuageux s'est installé sur tout l'ouest avec quelques orages, comme actuellement dans la Vienne, et progresse vers le centre du pays. Prudence, cet après-midi, 12 départements sont placés en orange pour des orages forts. Une première zone notamment à surveiller, c'est le sud-est, avec rapidement des orages forts des Alpes du Sud au Nord-Provence, avec grêle et fortes précipitations possibles. Et la deuxième, en fin de journée, sur une bande centrale du pays. Des orages forts également, avec surtout des rafales au-delà des 100 km/h possibles qui concerneront surtout Midi-Pyrénées, le centre du pays, vers la Bourgogne.
En revanche, côté canicule, ça ne bouge pas.
Non, avec toujours 35 à 39 degrés cet après-midi du sud-ouest au flanc est, localement 40 entre la vallée du Rhône et la Bourgogne. Il fera plutôt 33 à 35 degrés sur les bords de la Méditerranée. Seul un tiers nord-ouest reste à l'écart des chaleurs caniculaires, avec 23 à 25 sur les littoraux et jusqu'à 33 à Rouen, Alençon ou à Angers. Les températures baisseront sensiblement demain, mais les chaleurs caniculaires persisteront dans le sud et dans une grande moitié est.
Olivier Proust de Météo France.